Consuelo, livre 2, chapitre 40. Cependant, en se voyant surveillée par Wenceslawa comme elle ne l'avait jamais été, Consuelo craignit d'être contrariée par un zèle malentendu, et se composa un maintien plus froid, grâce auquel il lui fut possible, dans la journée, d'échapper à son attention, et de prendre, d'un pied léger, la route du Schreckenstein. Elle n'avait pas d'autre idée dans ce moment que de rencontrer Zenko, de l'amener à une explication, et de savoir définitivement s'il voulait la conduire auprès d'Albert. Elle le trouva assez près du château, sur le sentier qui menait au Schreckenstein. Il semblait venir à sa rencontre, et lui adressa la parole en bohémien avec beaucoup de volubilité. « Hélas, je ne te comprends pas, » lui dit Consuelo lorsqu'elle put placer un mot. « Je sais à peine l'allemand, cette dure langue que tu hais comme l'esclavage, et qui est triste pour moi comme l'exil. Mais puisque nous ne pouvons nous entendre autrement, consens à la parler avec moi, nous la parlons aussi mal l'un que l'autre. » Je te promets d'apprendre le bohémien, si tu veux me l'enseigner. » À ces paroles, qui lui étaient sympathiques, Zenko devint sérieux, et tendant à Consuelo une main sèche et calleuse qu'elle n'hésita point à serrer dans la sienne, « Bonne fille de Dieu, » lui dit-il en allemand, « je t'apprendrai ma langue et toutes mes chansons. Laquelle veux-tu que je te dise pour commencer ?» Consuelo pensa devoir se prêter à sa fantaisie en se servant des mêmes figures pour l'interroger. « Je veux que tu me chantes, » lui dit-elle, « la ballade du comte Albert. » « Il y a, » répondit-il, « plus de 200 000 ballades sur mon frère Albert. Je ne puis pas te les apprendre, tu ne les comprendrais pas. J'en fais tous les jours de nouvelles qui ne ressemblent jamais aux anciennes. Demande-moi tout autre chose. » « Pourquoi ne te comprendrais-je pas? Je suis la consolation. Je me nomme Consuelo, pour toi, entends-tu, et pour le comte Albert, qui seul ici me connaît. »« Toi, Consuelo ?» dit Zenko avec un rire moqueur. « Oh, tu ne sais ce que tu dis. La délivrance est enchaînée. »« Je sais cela. La consolation est impitoyable. Mais toi, tu ne sais rien, Zenko. » La délivrance a rompu ses chaînes, la consolation a brisé ses fers. Mensonge, mensonge, folie, paroles allemandes, reprit Zenko en réprimant ses rires et ses gambades. Tu ne sais pas chanter. Si fait, je sais chanter, repartit Consuelo. Tiens, écoute. Et elle lui chanta la première phrase de sa chanson sur les trois montagnes, qu'elle avait bien retenue, avec les paroles qu'Amélie l'avait aidé à retrouver et à prononcer. Zenko l'écouta avec ravissement et lui dit en soupirant « Je t'aime beaucoup, ma sœur, beaucoup, beaucoup. Veux-tu que je t'apprenne une autre chanson ?»« Oui, celle du comte Albert, en allemand d'abord. Tu me l'apprendras après en bohémien. » « Comment commence-t-elle ? » dit Zenko en la regardant avec malice. Consuelo commença l'air de la chanson de la veille. « Il y a là-bas, là-bas, une âme en travail et en peine. »« Oh, celle-là est d'hier, je ne la sais plus aujourd'hui, » dit Zenko en l'interrompant. « Eh bien, dis-moi celle d'aujourd'hui. » « Les premiers mots, il faut me dire les premiers mots. » Les premiers mots, les voici, tiens. Le comte Albert est là-bas, là-bas, dans la grotte de Schreckenstein. À peine eut-elle prononcé ces paroles que Zenko changea tout à coup de visage et d'attitude. Ses yeux brillèrent d'indignation. Il fit trois pas en arrière, éleva ses mains au-dessus de sa tête, comme pour maudire Consuelo, et se mit à lui parler bohémien dans toute l'énergie de la colère et de la menace. Effrayée d'abord, mais voyant qu'il s'éloignait, Consuelo voulut le rappeler et le suivre. Il se retourna avec fureur, et ramassant une énorme pierre qu'il parut soulever sans effort avec ses bras maigres et débiles, Zenko n'a jamais fait de mal à personne, s'écria-t-il en allemand. Zenko ne voudrait pas briser l'aile d'une pauvre mouche. Et si un petit enfant voulait le tuer, il se laisserait tuer par un petit enfant. Mais si tu me regardes encore, si tu me dis un mot de plus, fille du mal, menteuse, autrichienne, Zenko t'écrasera comme un ver de terre. Dût-il se jeter ensuite dans le torrent pour laver son corps et son âme du sang humain répandu ? Consuelo, épouvanté, prit la fuite et rencontra au bas du sentier un paysan qui, s'étonnant de la voir courir ainsi, pâle et comme poursuivi, lui demanda si elle avait rencontré un loup. Consuelo, voulant savoir si Zenko était sujet à des accès de démence furieuse, lui dit qu'elle avait rencontré l'innocent et qu'il l'avait effrayé. « Vous ne devez pas avoir peur de l'innocent, » répondit le paysan en souriant de ce qu'il prenait pour une pusillanimité de petite maîtresse. « Zenko n'est pas méchant. Toujours il rit, ou il chante, ou il raconte des histoires que l'on ne comprend pas et qui sont bien belles. Mais il se fâche quelquefois, et alors il menace et il jette des pierres ?»« Jamais, jamais, » répondit le paysan. « Cela n'est jamais arrivé et n'arrivera jamais. Il ne faut point avoir peur de Zenko. Zenko est innocent comme un ange. » Quand elle fut remise de son trouble, Consuelo reconnut que ce paysan devait avoir raison et qu'elle venait de provoquer, par une parole imprudente, le premier, le seul accès de fureur qu'eût jamais éprouvé l'innocent Zenko. Elle se le reprocha amèrement. « J'ai été trop pressée, » se dit-elle. « J'ai éveillé dans l'âme paisible de cet homme privé de ce qu'on appelle fièrement la raison une souffrance qu'il ne connaissait pas encore. » Et qui peut maintenant s'emparer de lui à la moindre occasion. Il n'était que maniaque, je l'ai peut-être rendu fou. Mais elle devint plus triste encore en pensant au motif de la colère de Zenko. Il était bien certain désormais qu'elle avait deviné juste en plaçant la retraite d'Albert au Schreckenstein. Mais avec quel soin jaloux et ombrageux Albert et Zenko voulaient cacher ce secret, même à elle. Elle n'était donc pas acceptée de cette proscription. Elle n'avait donc aucune influence sur le comte Albert. Et cette inspiration qu'il avait eue de la nommer sa consolation, ce soin de la faire appeler la veille par une chanson symbolique de Zenko, cette confidence qu'il avait faite à son fou du nom de Consuelo, tout cela n'était donc chez lui que la fantaisie du moment. Sans qu'une aspiration véritable et constante lui désignât une personne plus qu'une autre pour sa libératrice et sa consolation. Ce nom même de consolation, prononcé et comme deviné par lui, était une affaire de pur hasard. Elle n'avait caché à personne qu'elle fût espagnole, et que sa langue maternelle lui fût demeurée plus familière encore que l'italien. Albert, enthousiasmé par son chant, et ne connaissant pas d'expression plus énergique que celle qui exprimait l'idée dont son âme était avide et son imagination remplie, la lui avait adressée dans une langue qu'il connaissait parfaitement, mais que personne autour de lui ne pouvait entendre, excepté elle. Consuelo ne s'était jamais fait d'illusions extraordinaires à cet égard. Cependant, une rencontre si délicate et si ingénieuse du hasard lui avait semblé avoir quelque chose de providentiel, et sa propre imagination s'en était emparée sans trop d'examen. Maintenant, tout était remis en question. Albert avait-il oublié, dans une nouvelle phase de son exaltation, l'exaltation qu'il avait éprouvée pour elle ? Était-elle désormais inutile à son soulagement, impuissante pour son salut ? Ou bien Zenko, qui lui avait paru si intelligent et si empressé jusque-là à seconder les desseins d'Albert, était-il lui-même plus tristement et plus sérieusement fou que Consuelo n'avait voulu le supposer? Exécutait-il les ordres de son ami, ou bien les oubliait-il complètement, en interdisant avec fureur à la jeune fille l'approche du Schreckenstein et le soupçon de la vérité? Eh bien, lui dit Amélie tout bas lorsqu'elle fut de retour. « Avez-vous vu passer Albert dans les nuages du couchant? Est-ce la nuit prochaine que, par une conjuration puissante, vous le ferez descendre par la cheminée? » « Peut-être, lui répondit Consuelo avec un peu d'humeur. C'était la première fois de sa vie qu'elle sentait son orgueil blessé. Elle avait mis à son entreprise un dévouement si pur, un entraînement si magnanime, qu'elle souffrait à l'idée d'être raillée et méprisée pour n'avoir pas réussi. Elle fut triste toute la soirée. Et la chanoinesse, qui remarqua ce changement, ne manqua pas de l'attribuer à la crainte d'avoir laissé deviner le sentiment funeste éclos dans son cœur. La chanoinesse se trompait étrangement. Si Consuelo avait ressenti la moindre atteinte d'un amour nouveau, elle n'eût connu ni cette foi vive, ni cette confiance sainte qui jusque-là l'avait guidée et soutenue. Jamais peut-être elle n'avait, au contraire, éprouvé le retour amer de son ancienne passion plus fortement que dans ces circonstances où elle cherchait à s'en distraire par des actes d'héroïsme et une sorte de fanatisme d'humanité. En rentrant le soir dans sa chambre, elle trouva sur son épinette un vieux livre doré et armorié qu'elle crut aussitôt reconnaître pour celui qu'elle avait vu prendre dans le cabinet d'Albert et emporté par Zenko la nuit précédente. Elle l'ouvrit à l'endroit où le signet était posé. C'était le psaume de la pénitence qui commence ainsi « De profundis clamavi ad te ». Et ces mots latins étaient soulignés avec une encre qui semblait fraîche, car elle avait un peu collé au verso de la page suivante. Elle feuilleta tout le volume, qui était une fameuse Bible ancienne, dite de Kralik, éditée en 1579, et n'y trouva aucune autre indication, aucune note marginale, aucun billet. Mais ce simple cri parti de l'abîme, et pour ainsi dire des profondeurs de la terre, n'était-il pas assez significatif, assez éloquent? Quelle contradiction régnait donc entre le vœu formel et constant d'Albert et la conduite récente de Zenko? Consuelo s'arrêta à sa dernière supposition. Albert, malade et accablé au fond du souterrain, qu'elle présumait placé sous le Schreckenstein, y était peut-être retenu par la tendresse insensée de Zenko. Il était peut-être la proie de ce fou qui le chérissait à sa manière en le tenant prisonnier, en cédant parfois à son désir de revoir la lumière, en exécutant ses messages auprès de Consuelo, et en s'opposant tout à coup au succès de ses démarches par une terreur ou un caprice inexplicable. « Eh bien, se dit-elle, j'irai. Dussé-je affronter les dangers réels? J'irai. Dussé-je faire une imprudence ridicule aux yeux des sots et des égoïstes? J'irai. Dussé-je y être humilié par l'indifférence de celui qui m'appelle? Humilié. Et comment pourrais-je l'être, s'il est réellement aussi fou lui-même que le pauvre Zenko? Je n'aurai sujet que de les plaindre l'un et l'autre, et j'aurai fait mon devoir. J'aurai obéi à la voix de Dieu qui m'inspire, et à sa main qui me pousse, avec une force irrésistible. » L'état fébrile où elle s'était trouvée tous les jours précédents, et qui, depuis sa dernière rencontre malencontreuse avec Zenko, avait fait place à une langueur pénible, se manifesta de nouveau dans son âme et dans son corps. Elle retrouva toutes ses forces, et, cachant à Amélie et le livre et son enthousiasme et son dessein, elle échangea des paroles enjouées avec elle, la laissa s'endormir et partit pour la source des pleurs, munie d'une petite lanterne sourde qu'elle s'était procurée le matin même. Elle attendit assez longtemps et fut forcée par le froid de rentrer plusieurs fois dans le cabinet d'Albert pour ranimer par un air plus tiède ses membres engourdis. Elle osa jeter un regard sur cet énorme amas de livres, non pas rangés sur des rayons comme dans une bibliothèque, mais jetés pêle-mêle sur le carreau, au milieu de la chambre, avec une sorte de mépris et de dégoût. Elle se hasarda à en ouvrir quelques-uns. Ils étaient presque tous écrits en latin, et Consuelo put tout au plus présumer que c'était des ouvrages de controverses religieuses, émanés de l'Église romaine ou approuvés par elle. Elle essayait d'en comprendre les titres lorsqu'elle entendit enfin bouillonner l'eau de la fontaine. Elle y courut, ferma sa lanterne, se cacha derrière le garde-fou et attendit l'arrivée de Zenko. Cette fois, il ne s'arrêta ni dans le parterre ni dans le cabinet. Il traversa les deux pièces et sortit de l'appartement d'Albert pour aller, ainsi que le sut plus tard Consuelo, regarder et écouter à la porte de l'oratoire et à celle de la chambre à coucher du comte Christian, si le vieillard priait dans la douleur ou reposait tranquillement. C'était une sollicitude qu'il prenait souvent sur son compte, et sans qu'Albert eût songé à la lui imposer, comme on le verra par la suite. Consuelo ne délibéra point sur le parti qu'elle avait à prendre. Son plan était arrêté. Elle ne se fiait plus à la raison ni à la bienveillance de Zenko. Elle voulait parvenir jusqu'à celui qu'elle supposait prisonnier, seul et sans garde. Il n'y avait sans doute qu'un chemin pour aller sous terre de la citerne du château à celle de Schreckenstein. Si ce chemin était difficile ou périlleux, du moins il était praticable, puisque Zenko y passait toutes les nuits. Il l'était surtout avec de la lumière. Et Consuelo s'était pourvu de bougies, d'un morceau de fer, d'amadou et d'une pierre, pour avoir de la lumière en cas d'accident. Ce qui lui donnait la certitude d'arriver par cette route souterraine au Schreckenstein, c'était une ancienne histoire qu'elle avait entendue raconter à la chanoinesse, d'un siège soutenu jadis par l'ordre teutonique. Ces chevaliers, disait Wenceslawa, avaient dans leur réfectoire même une citerne qui leur apportait toujours de l'eau d'une montagne voisine. Et lorsque leurs espions voulaient effectuer une sortie pour observer l'ennemi, ils desséchaient la citerne, passaient par ses conduits souterrains et allaient sortir dans un village qui était dans leur dépendance. Consuelo se rappelait que, selon la chronique du pays, le village qui couvrait la colline appelée Schreckenstein, depuis l'incendie, dépendait de la forteresse des géants et avait avec lui de secrètes intelligences en temps de siège. Elle était donc dans la logique et dans la vérité en cherchant cette communication et cette issue. Elle profita de l'absence de Zenko pour descendre dans le puits. Auparavant, elle se mit à genoux, recommanda son âme à Dieu, fit naïvement un grand signe de croix, comme elle l'avait fait dans la coulisse du théâtre de San Samuel, avant de paraître pour la première fois sur la scène. Puis elle descendit bravement l'escalier tournant et rapide, cherchant à la muraille les points d'appui qu'elle avait vus prendre à Zenko, et ne regardant point au-dessous d'elle de peur d'avoir le vertige. Elle atteignit la chaîne de fer sans accident. Et lorsqu'elle l'eut saisie, elle se sentit plus tranquille et eut le sang-froid de regarder au fond du puits. Il y avait encore de l'eau, et cette découverte lui causa un instant d'émoi. Mais la réflexion lui vint aussitôt. Le puits pouvait être très profond, mais l'ouverture du souterrain qui amenait Zenko ne devait être située qu'à une certaine distance au-dessous du sol. Elle avait déjà descendu 50 marches avec cette adresse et cette agilité que n'ont pas les jeunes filles élevées dans les salons, mais que les enfants du peuple acquièrent dans leurs jeux, et dont ils conservent toute leur vie la hardiesse confiante. Le seul danger véritable était de glisser sur les marches humides. Consuelo avait trouvé dans un coin, en furetant, un vieux chapeau à large bord que le baron Frédéric avait longtemps porté à la chasse. Elle l'avait coupé et s'en était fait des semelles qu'elle avait attachées à ses souliers avec des cordons en manière de cothurne. Elle avait remarqué une chaussure analogue au pied de Zenko dans sa dernière expédition nocturne. Avec ses semelles de feutre, Zenko marchait sans faire aucun bruit dans les corridors du château. Et c'est pour cela qu'il lui avait semblé glisser comme une ombre plutôt que marcher comme un homme. C'était aussi jadis la coutume des hussites de chausser ainsi leurs espions, et même leurs chevaux, lorsqu'ils effectuaient une surprise chez l'ennemi. À la 52e marche, Consuelo trouva une dalle plus large et une arcade basse en ogive. Elle n'hésita point à y entrer, et à s'avancer à demi courbée dans une galerie souterraine étroite et basse, toute dégoûtante de l'eau qui venait d'y couler, travaillée et voûtée de main d'homme avec une grande solidité. Elle y marchait, sans obstacle et sans terreur, depuis environ 5 minutes, lorsqu'il lui sembla entendre un léger bruit derrière elle. C'était peut-être Zenko qui redescendait et qui reprenait le chemin du Schreckenstein. Mais elle avait de l'avance sur lui et doubla le pas pour n'être pas atteinte par ce dangereux compagnon de voyage. Il ne pouvait pas se douter qu'elle l'eût devancé. Il n'avait pas de raison pour courir après elle. Et pendant qu'il s'amuserait à chanter et à marmotter tout seul ses complaintes et ses interminables histoires, elle aurait le temps d'arriver et de se mettre sous la protection d'Albert. Mais le bruit qu'elle avait entendu augmenta et devint semblable à celui de l'eau qui gronde, lutte et s'élance. Qu'était-il donc arrivé? Zenko s'était-il aperçu de son dessein? Avait-il lâché l'écluse pour l'arrêter et l'engloutir? Mais il n'avait pu le faire avant d'avoir passé lui-même, et il était derrière elle. Cette réflexion n'était pas très rassurante. Zenko était capable de se dévouer à la mort, de se noyer avec elle plutôt que de trahir la retraite d'Albert. Cependant, Consuelo ne voyait point de pelle, point d'écluse, pas une pierre sur son chemin qui pût retenir l'eau et la faire ensuite écouler. Cette eau ne pouvait être qu'en avant de son chemin, et le bruit venait de derrière elle. Cependant, il grandissait, il montait, il approchait avec le rugissement du tonnerre. Tout à coup, Consuelo, frappé d'une horrible découverte, s'aperçut que la galerie, au lieu de monter, descendait d'abord en pente douce, et puis de plus en plus rapidement. L'infortuné s'était trompé de chemin. Dans son empressement et dans la vapeur épaisse qui s'exhalait du fond de la citerne, elle n'avait pas vu une seconde ogive, beaucoup plus large et située vis-à-vis de celle qu'elle avait prise. Elle s'était enfoncée dans le canal qui servait de déversoir à l'eau du puits, au lieu de remonter celui qui conduisait au réservoir ou à la source. Zenko, s'en allant par une route opposée, venait de lever tranquillement la pelle. L'eau tombait en cascade au fond de la citerne, et déjà la citerne était remplie jusqu'à la hauteur du déversoir. Déjà elle se précipitait dans la galerie, où Consuelo fuyait, éperdue et glacée d'épouvante. Bientôt, cette galerie, dont la dimension était ménagée de manière à ce que la citerne, perdant moins d'eau qu'elle n'en recevait de l'autre bouche, pût se remplir, allait se remplir à son tour. Dans un instant, dans un clin d'œil, le déversoir serait inondé, et la pente continuait à s'abaisser vers des abîmes où l'eau tendait à se précipiter. La voûte, encore suintante, annonçait assez que l'eau la remplissait tout entière, qu'il n'y avait pas de salut possible et que la vitesse de ses pas ne sauverait pas la malheureuse fugitive de l'impétuosité du torrent. L'air était déjà intercepté par la masse d'eau qui arrivait à grand bruit. Une chaleur étouffante arrêtait la respiration et suspendait la vie autant que la peur et le désespoir. Déjà, le rugissement de l'onde déchaînée grondait aux oreilles de Consuelo. Déjà, une écume rousse, sinistre avant-coureur du flot, ruisselait sur le pavé et devançait la course incertaine et ralentie de la victime consternée. Chapitre 41. « Oh, ma mère ! » s'écria-t-elle. « Ouvre-moi tes bras. Oh, Anzoletto, je t'ai aimé. Oh, mon Dieu, dédommage-moi dans une vie meilleure. » À peine avait-elle jeté vers le ciel ce cri d'agonie qu'elle trébuche et se frappe à un obstacle inattendu. « Oh, surprise ! Oh, bonté divine ! C'est un escalier, étroit et raide, qui monte à l'une des parois du souterrain. » Et qu'elle gravit avec les ailes de la peur et de l'espérance. La voûte s'élève sur son front, le torrent se précipite, heurte l'escalier que Consuelo a eu le temps de franchir, en dévore les 10 premières marches, mouille jusqu'à la cheville les pieds agiles qui le fuient, et, parvenue enfin au sommet de la voûte surbaissée que Consuelo a laissée derrière elle, s'engouffre dans les ténèbres et tombe avec un fracas épouvantable dans un réservoir profond que l'héroïque enfant domine d'une petite plateforme où elle est arrivée sur ses genoux et dans l'obscurité. Car son flambeau s'est éteint. Un coup de vent furieux a précédé l'irruption de la masse d'eau. Consuelo s'est laissé tomber sur la dernière marche. soutenu jusque-là par l'instinct conservateur de la vie, mais ignorant encore si elle est sauvée, si ce fracas de la cataracte est un nouveau désastre qui va l'atteindre, et si cette pluie froide qui en rejaillit jusqu'à elle et qui baigne ses cheveux est la main glacée de la mort qui s'étend sur sa tête. Cependant, le réservoir se remplit peu à peu, jusqu'à d'autres déversoirs plus profonds qui emportent encore au loin dans les entrailles de la terre le courant de la source abondante. Le bruit diminue, les vapeurs se dissipent. Un murmure sonore, mais plus harmonieux qu'effrayant, se répand dans les cavernes. D'une main convulsive, Consuelo est parvenu à rallumer son flambeau. Son cœur frappe encore violemment sa poitrine, mais son courage s'est ranimé. À genoux, elle remercie Dieu et sa mère. Elle examine enfin le lieu où elle se trouve et promène la clarté vacillante de sa lanterne sur les objets environnants. Une vaste grotte, creusée par la nature, sert de voûte à un abîme que la source lointaine du Schreckenstein alimente et où elle se perd dans les entrailles du rocher. Cet abîme est si profond qu'on ne voit plus l'eau qui l'engouffre, mais quand on y jette une pierre, elle roule pendant 2 minutes et produit en s'y plongeant une explosion semblable à celle du canon. Les échos de la caverne le répètent longtemps et le clapotement sinistre de l'eau invisible dure plus longtemps encore. On dirait les aboiements de la meute infernale. Sur une des parois de la grotte, un sentier étroit et difficile, taillé dans le roc, côtoie le précipice et s'enfonce dans une nouvelle galerie ténébreuse où le travail de l'homme cesse entièrement et qui se détourne des courants d'eau et de leur chute en remontant vers des régions plus élevées. C'est la route que Consuelo doit prendre, il n'y en a point d'autre. L'eau a fermé et rempli entièrement celle qu'elle vient de suivre. Il est impossible d'attendre dans la grotte le retour de Zenko. L'humidité en est mortelle, et déjà le flambeau pâlit, pétille et menace de s'éteindre sans pouvoir se rallumer. Consuelo n'est point paralysée par l'horreur de cette situation. Elle pense bien qu'elle n'est plus sur la route du Schreckenstein. Ces galeries souterraines qui s'ouvrent devant elle sont un jeu de la nature et conduisent à des impasses ou à un labyrinthe dont elle ne retrouvera jamais l'issue. Elle s'y hasardera pourtant, ne fût-ce que pour trouver un asile plus sain jusqu'à la nuit prochaine. La nuit prochaine, Zenko reviendra, il arrêtera le courant, la galerie sera vidée, et la captive pourra revenir sur ses pas et revoir la lumière des étoiles. Consuelo s'enfonça donc dans les mystères du souterrain avec un nouveau courage, attentive cette fois à tous les accidents du sol et s'attachant à suivre toujours les pentes ascendantes, sans se laisser détourner par les galeries en apparence plus spacieuses et plus directes qui s'offraient à chaque instant. De cette manière, elle était sûre de ne plus rencontrer de courant d'eau et de pouvoir revenir sur ses pas. Elle marchait au milieu de 1000 obstacles. Des pierres énormes encombraient sa route et déchiraient ses pieds. Des chauves-souris gigantesques, arrachées de leur morne sommeil par la clarté de la lanterne, venaient par bataillons s'y frapper et tourbillonner comme des esprits de ténèbres autour de la voyageuse. Après les premières émotions de la surprise, à chaque nouvelle terreur, elle sentait grandir son courage. Quelquefois, elle gravissait d'énormes blocs de pierre détachés d'immenses voûtes crevassées, qui montraient d'autres blocs menaçants, retenus à peine dans leurs fissures élargies à 20 pieds au-dessus de sa tête. D'autres fois, la voûte se resserrait et s'abaissait au point que Consuelo était forcé de ramper dans un air rare et brûlant pour s'y frayer un passage. Elle marchait ainsi depuis une demi-heure. Lorsqu'au détour d'un angle resserré, où son corps svelte et souple eut de la peine à passer, elle retomba de Charib en Silla, en se retrouvant face à face avec Zenko. Zenko, d'abord pétrifié de surprise et glacé de terreur, bientôt indigné, furieux et menaçant comme elle l'avait déjà vu. Dans ce labyrinthe, parmi ces obstacles sans nombre, à la clarté vacillante d'un flambeau que le manque d'air étouffait à chaque instant, La fuite était impossible. Consuelo songea à se défendre corps à corps contre une tentative de meurtre. Les yeux égarés, la bouche écumante de Zenko annonçait assez qu'il ne s'arrêterait pas cette fois à la menace. Il prit tout à coup une résolution étrangement féroce. Il se mit à ramasser de grosses pierres et à les placer l'une sur l'autre entre lui et Consuelo pour murer l'étroite galerie où elle se trouvait. De cette manière, il était sûr qu'en ne vidant plus la citerne durant plusieurs jours, il la ferait périr de faim, comme l'abeille qui enferme le frelon indiscret dans sa cellule en apposant une cloison de cire à l'entrée. Mais c'était avec du granit que Zenko bâtissait, et il s'en acquittait avec une rapidité prodigieuse. La force athlétique que cet homme si maigre et en apparence si débile trahissait en ramassant et en arrangeant ses blocs prouvait trop bien à Consuelo que la résistance était impossible et qu'il valait mieux espérer de trouver une autre issue en retournant sur ses pas que de se porter aux dernières extrémités en l'irritant. Elle essaya de l'attendrir, de le persuader et de le dominer par ses paroles. « Zenko, lui disait-elle, que fais-tu là, insensé? Albert te reprochera ma mort. Albert m'attend et m'appelle. Je suis son ami, sa consolation et son salut. Tu perds ton ami et ton frère en me perdant. » Mais Zenko, craignant de se laisser gagner et résolu de continuer son œuvre, se mit à chanter dans sa langue sur un air vif et animé, tout en bâtissant d'une main active et légère son mur cyclopéen. Une dernière pierre manquait pour assurer l'édifice. Consuelo le regardait faire avec consternation. « Jamais, pensait-elle, je ne pourrais démolir ce mur. Il me faudrait les mains d'un géant. » La dernière pierre fut posée. Et bientôt elle s'aperçut que Zenko en bâtissait un second adossé au premier. C'était toute une carrière, toute une forteresse qu'il allait entasser entre elle et Albert. Il chantait toujours et paraissait prendre un plaisir extrême à son ouvrage. Une inspiration merveilleuse vint enfin à Consuelo. Elle se rappela la fameuse formule hérétique qu'elle s'était faite expliquer par Amélie et qui avait tant scandalisé le chapelain. « Zenko !» s'écria-t-elle en bohémien à travers une des fentes du mur mal joint qui la séparait déjà de lui. « Ami Zenko, que celui à qui on a fait tort te salue !» À peine cette parole fut-elle prononcée qu'elle opéra sur Zenko comme un charme magique. Il laissa tomber l'énorme bloc qu'il tenait en poussant un profond soupir et il se mit à démolir son mur avec plus de promptitude encore qu'il ne l'avait élevé. Puis, tendant la main à Consuelo, il l'aida en silence à franchir cette ruine, après quoi il la regarda attentivement, soupira étrangement, et, lui remettant trois clés liées ensemble par un ruban rouge, il lui montra le chemin devant elle en lui disant « Que celui à qui on a fait tort te salue. » « Ne veux-tu pas me servir de guide ?» lui dit-elle. « Conduis-moi vers ton maître. » Zenko secoua la tête en disant « Je n'ai pas de maître, j'avais un ami, tu me le prends, la destinée s'accomplit, va où Dieu te pousse, moi, je vais pleurer ici jusqu'à ce que tu reviennes. » Et s'asseyant sur les décombres, il mit sa tête dans ses mains et ne voulut plus dire un mot. Consuelo ne s'arrêta pas longtemps pour le consoler, elle craignait le retour de sa fureur. Et, profitant de ce moment où elle le tenait en respect, certaine enfin d'être sur la route du Schreckenstein, elle partit comme un trait. Dans sa marche incertaine et pénible, Consuelo n'avait pas fait beaucoup de chemin, car Zenko, se dirigeant par une route beaucoup plus longue mais inaccessible à l'eau, s'était rencontré avec elle au point de jonction des deux souterrains, qui faisaient, l'un par un détour bien ménagé et creusé de main d'homme dans le roc, l'autre, affreux, bizarre et plein de dangers, le tour du château, de ses vastes dépendances et de la colline sur laquelle il était assis. Consuelo ne se doutait guère qu'elle était en cet instant sous le parc, et cependant elle en franchissait les grilles et les fossés par une voie que toutes les clés et toutes les précautions de la chanoinesse ne pouvaient plus lui fermer. Elle eut la pensée, au bout de quelques trajets sur cette nouvelle route, de retourner sur ses pas et de renoncer à une entreprise déjà si traversée et qui avait failli lui devenir si funeste. De nouveaux obstacles l'attendaient peut-être encore. Le mauvais vouloir de Zenko pouvait se réveiller. Et s'il allait courir après elle? S'il allait élever un nouveau mur pour empêcher son retour? Au lieu qu'en abandonnant son projet, en lui demandant de lui frayer le chemin vers la citerne et de remettre cette citerne à sec pour qu'elle pût monter, elle avait de grandes chances pour le trouver docile et bienveillant. Mais elle était encore trop sous l'émotion du moment pour se résoudre à revoir ce fantasque personnage. La peur qu'il lui avait causée augmentait à mesure qu'elle s'éloignait de lui. Et après avoir affronté sa vengeance avec une présence d'esprit miraculeuse, elle faiblissait en se la représentant. Elle fuyait donc devant lui, n'ayant plus le courage de tenter ce qu'il eût fallu faire pour se le rendre favorable, et n'aspirant qu'à trouver une de ces portes magiques dont il lui avait cédé les clés, afin de mettre une barrière entre elle et le retour de la démence. Mais n'allait-elle pas trouver Albert, cet autre fou qu'elle s'était obstinée témérairement à croire doux et traitable, dans une position analogue à celle de Zenko envers elle? Il y avait un voile épais sur toute cette aventure, et revenu de l'attrait romanesque qui avait contribué à l'y pousser, Consuelo se demandait si elle n'était pas la plus folle des trois de s'être précipitée dans cet abîme de dangers et de mystères sans être sûre d'un résultat favorable et d'un succès fructueux. Cependant, elle suivait un souterrain spacieux et admirablement creusé par les fortes mains des hommes du Moyen-Âge. Tous les rochers étaient percés par un entaillement ogival surbaissé avec beaucoup de caractère et de régularité. Les portions moins compactes, les veines crayeuses du sol, tous les endroits où l'éboulement eût été possible, étaient soutenus par une construction en pierre de taille à rinceaux croisés, qui liait ensemble des clés de voûte quadrangulaires en granit. Consuelo ne perdait pas son temps à admirer ce travail immense, exécuté avec une solidité qui défiait encore bien des siècles. Elle ne se demandait pas non plus comment les possesseurs actuels du château pouvaient ignorer l'existence d'une construction si importante. Elle eût pu se l'expliquer, en se rappelant que tous les papiers historiques de cette famille et de cette propriété avaient été détruits plus de 100 ans auparavant, à l'époque de l'introduction de la réforme en Bohême. Mais elle ne regardait plus autour d'elle et ne pensait presque plus qu'à son propre salut, satisfaite seulement de trouver un sol uni, un air respirable et un libre espace pour courir. Elle avait encore assez de chemin à faire, quoique cette route directe vers le Schreckenstein fût beaucoup plus courte que le sentier tortueux de la montagne. Elle le trouvait bien long. Et ne pouvant plus s'orienter, elle ignorait même si cette route la conduisait au Schreckenstein ou à un terme beaucoup plus éloigné de son expédition. Au bout d'un quart d'heure de marche, elle vit de nouveau la voûte s'élever et le travail de l'architecte cesser entièrement. C'était pourtant encore l'ouvrage des hommes que ces vastes carrières, ces grottes majestueuses qu'il lui fallait traverser. Mais, envahie par la végétation, et recevant l'air extérieur par de nombreuses fissures, elles avaient un aspect moins sinistre que les galeries. Il y avait là 1000 moyens de se cacher et de se soustraire aux poursuites d'un adversaire irrité. Mais un bruit d'eau courante vint faire tressaillir Consuelo. Et si elle eût pu plaisanter dans une pareille situation, elle se fût avouée à elle-même que jamais le baron Frédéric, au retour de la chasse, n'avait eu plus d'horreur de l'eau qu'elle n'en éprouvait en cet instant. Cependant, elle fit bientôt usage de sa raison. Elle n'avait fait que monter depuis qu'elle avait quitté le précipice au moment d'être submergée. À moins que Zenko n'eût à son service une machine hydraulique d'une puissance et d'une étendue incompréhensibles, il ne pouvait pas faire remonter vers elle son terrible auxiliaire, le torrent. Il était bien évident d'ailleurs qu'elle devait rencontrer quelque part le courant de la source, l'écluse ou la source elle-même. Et si elle eût pu réfléchir davantage, elle se fût étonnée de n'avoir pas encore trouvé sur son chemin cette onde mystérieuse, cette source des pleurs qui alimentait la citerne. C'est que la source avait son courant dans les veines inconnues des montagnes, et que la galerie, coupant à angle droit, ne la rencontrait qu'aux approches de la citerne d'abord, et ensuite sous le Schreckenstein, ainsi qu'il arriva enfin à Consuelo. L'écluse était donc loin derrière elle, sur la route que Zenko avait parcourue seule, et Consuelo approchait de cette source que depuis des siècles aucun autre homme qu'Albert ou Zenko n'avait vue. Elle eut bientôt rejoint le courant, et cette fois elle le côtoya sans terreur et sans danger. Un sentier de sable frais et fin remontait le cours de cette eau limpide et transparente, qui courait avec un bruit généreux dans un lit convenablement encaissé. Là reparaissait le travail de l'homme. Ce sentier était relevé en talus dans des terres fraîches et fertiles, car de belles plantes aquatiques, des pariétaires énormes, des ronces sauvages fleuries dans ce lieu abrité, sans souci de la rigueur de la saison, bordaient le torrent d'une marge verdoyante. L'air extérieur pénétrait par une multitude de fentes et de crevasses suffisantes pour entretenir la vie de la végétation, mais trop étroites pour laisser passage à l'œil curieux qui les aurait cherchées du dehors. C'était comme une serre chaude naturelle, préservée par ses voûtes du froid et des neiges, mais suffisamment aérée par 1000 soupiraux imperceptibles. On eût dit qu'un soin complaisant avait protégé la vie de ces belles plantes et débarrassé le sable que le torrent rejetait sur ses rives des graviers qui offensent le pied. Et on ne se fût pas trompé dans cette supposition. C'était Zenko qui avait rendu gracieux, faciles et sûrs les abords de la retraite d'Albert. Consuelo commençait à ressentir l'influence bienfaisante qu'un aspect moins sinistre et déjà poétique des objets extérieurs produisait sur son imagination bouleversée par de cruelles terreurs. En voyant les pâles rayons de la lune se glisser çà et là dans les fentes des rochers et se briser sur les eaux tremblotantes, en sentant l'air de la forêt frémir par intervalles sur les plantes immobiles que l'eau n'atteignait pas, en se sentant toujours plus près de la surface de la terre, elle se sentait renaître, et l'accueil qui l'attendait au terme de son héroïque pèlerinage se peignait dans son esprit sous des couleurs moins sombres. Enfin, elle vit le sentier se détourner brusquement de la rive, entrer dans une courte galerie maçonnée fraîchement, et finir à une petite porte qui semblait de métal tant elle était froide, et qu'encadrait gracieusement un grand lierre terrestre. Quand elle se vit au bout de ses fatigues et de ses irrésolutions, quand elle appuya sa main épuisée sur ce dernier obstacle qui pouvait céder à l'instant même, car elle tenait la clé de cette porte dans son autre main, Consuelo hésita et sentit une timidité plus difficile à vaincre que toutes ses terreurs. Elle allait donc pénétrer seule dans un lieu fermé à tout regard, à toute pensée humaine, pour y surprendre le sommeil ou la rêverie d'un homme qu'elle connaissait à peine, qui n'était ni son père, ni son frère, ni son époux, qu'il aimait peut-être, et qu'elle ne pouvait ni ne voulait aimer. « Dieu m'a entraînée et conduite ici, » pensait-elle, « au milieu des plus épouvantables périls. C'est par sa volonté plus encore que par sa protection que j'y suis parvenue. J'y viens avec une âme fervente, une résolution pleine de charité, un cœur tranquille, une conscience pure, un désintéressement à toute épreuve. C'est peut-être la mort qui m'y attend. Et cependant, cette pensée ne m'effraie pas. Ma vie est désolée et je la perdrai sans trop de regrets. Je l'ai éprouvée il n'y a qu'un instant, et depuis une heure, je me vois dévouée à un affreux trépas, avec une tranquillité à laquelle je ne m'étais point préparée. C'est peut-être une grâce que Dieu m'envoie à mon dernier moment. Je vais tomber peut-être sous les coups d'un furieux, et je marche à cette catastrophe avec la fermeté d'un martyr. je crois ardemment à la vie éternelle, et je sens que si je péris ici, victime d'un dévouement inutile peut-être, mais profondément religieux, je serai récompensé dans une vie plus heureuse. Qui m'arrête? Et pourquoi éprouvais-je donc un trouble inexprimable, comme si j'allais commettre une faute et rougir devant celui que je viens sauver? C'est ainsi que Consuelo, trop pudique pour bien comprendre sa pudeur, luttait contre elle-même et se faisait presque un reproche de la délicatesse de son émotion. Il ne lui venait cependant pas à l'esprit qu'elle pût courir des dangers plus affreux pour elle que celui de la mort. Sa chasteté n'admettait pas la pensée qu'elle pût devenir la proie des passions brutales d'un insensé. Mais elle éprouvait instinctivement la crainte de paraître obéir à un sentiment moins élevé, moins divin que celui dont elle était animée. Elle mit pourtant la clé dans la serrure, mais elle essaya plus de 10 fois de l'y faire tourner, sans pouvoir s'y résoudre. Une fatigue accablante, une défaillance extrême de tout son être, achevait de lui faire perdre sa résolution au moment d'en recevoir le prix. Sur la terre, par un grand acte de charité, dans le ciel, par une mort sublime. Chapitre 42. Cependant, elle prit son parti. Elle avait 3 clés. Il y avait donc 3 portes et 2 pièces à traverser avant celle où elle supposait Albert prisonnier. Elle aurait encore le temps de s'arrêter si la force lui manquait. Elle pénétra dans une salle voûtée qui n'offrait d'autre ameublement qu'un lit de fougère sèche sur lequel était jetée une peau de mouton. Une paire de chaussures à l'ancienne mode, dans un délabrement remarquable, lui servit d'indice pour reconnaître la chambre à coucher de Zenko. Elle reconnut aussi le petit panier qu'elle avait porté rempli de fruits sur la pierre d'épouvante, et qui, au bout de 2 jours, en avait enfin disparu. Elle se décida à ouvrir la seconde porte après avoir refermé la première avec soin, car elle songeait toujours avec effroi au retour possible du possesseur farouche de cette demeure. La seconde pièce où elle entra était voûtée comme la première, mais les murs étaient revêtus de nattes et de claies garnies de mousse. Un poêle y répandait une chaleur suffisante, et c'était sans doute le tuyau creusé dans le roc qui produisait au sommet du Schreckenstein cette lueur fugitive que Consuelo avait observée. Le lit d'Albert était, comme celui de Zenko, formé d'un amas de feuilles et d'herbes desséchées. Mais Zenko l'avait couvert de magnifiques peaux d'ours, en dépit de l'égalité absolue qu'Albert exigeait dans leurs habitudes, et que Zenko acceptait en tout ce qui ne chagrinait pas la tendresse passionnée qu'il lui portait et la préférence de sollicitude qu'il lui donnait sur lui-même. Consuelo fut reçu dans cette chambre par Cinabre, qui, en entendant tourner la clé dans la serrure, s'était posté sur le seuil, l'oreille dressée et l'œil inquiet. Mais Cinabre avait reçu de son maître une éducation particulière. C'était un ami et non pas un gardien. Il lui avait été si sévèrement interdit dès son enfance de hurler et d'aboyer qu'il avait perdu tout à fait cette habitude naturelle aux êtres de son espèce. Si on eût approché d'Albert avec des intentions malveillantes, il eût retrouvé la voie. Si on l'eût attaqué, il l'eût défendu avec fureur. Mais, prudent et circonspect comme un solitaire, il ne faisait jamais le moindre bruit sans être sûr de son fait et sans avoir examiné et flairé les gens avec attention. Il approcha de Consuelo avec un regard pénétrant qui avait quelque chose d'humain, respira son vêtement et surtout sa main qui avait tenu longtemps les clés touchées par Zenko. Et, complètement rassuré par cette circonstance, il s'abandonna au souvenir bienveillant qu'il avait conservé d'elle, en lui jetant ses 2 grosses pattes velues sur les épaules, avec une joie affable et silencieuse, tandis qu'il balayait lentement la terre de sa queue superbe. Après cet accueil, grave et honnête, il alla se recoucher sur le bord de la peau d'ours qui couvrait le lit de son maître, et s'y étendit avec la nonchalance de la vieillesse, non sans suivre des yeux pourtant tous les pas et tous les mouvements de Consuelo. Avant d'oser approcher de la troisième porte, Consuelo jeta un regard sur l'arrangement de cet ermitage, afin d'y chercher quelques révélations sur l'état moral de l'homme qui l'occupait. Elle n'y trouva aucune trace de démence ni de désespoir. Une grande propreté, une sorte d'ordre y régnait. Il y avait un manteau et des vêtements de rechange accrochés à des cornes d'auroch, curiosité qu'Albert avait rapportée du fond de la Lituanie, et qui servait de porte-manteau. Ses livres nombreux étaient bien rangés sur une bibliothèque en planches brutes, que soutenaient de grosses branches artistement agencées par une main rustique et intelligente. La table, les deux chaises, étaient de la même matière et du même travail. Un herbier et des livres de musique anciens, tout à fait inconnus à Consuelo, avec des titres et des paroles slaves, achevaient de révéler les habitudes paisibles, simples et studieuses de l'anachorète. Une lampe de fer, curieuse par son antiquité, était suspendue au milieu de la voûte et brûlait dans l'éternelle nuit de ce sanctuaire mélancolique. Consuelo remarqua encore qu'il n'y avait aucune arme dans ce lieu. Malgré le goût des riches habitants de ces forêts pour la chasse et pour les objets de luxe qui en accompagnent le divertissement, Albert n'avait pas un fusil, pas un couteau. Et son vieux chien n'avait jamais appris la grande science, en raison de quoi Cinabre était un sujet de mépris et de pitié pour le baron Frédéric. Albert avait horreur du sang. Et quoiqu'il parût jouir de la vie moins que personne, il avait pour l'idée de la vie en général un respect religieux et sans bornes. Il ne pouvait ni donner ni voir donner la mort, même aux derniers animaux de la création. Il eût aimé toutes les sciences naturelles, mais il s'arrêtait à la minéralogie et à la botanique. L'entomologie lui paraissait déjà une science trop cruelle, et il n'eût jamais pu sacrifier la vie d'un insecte à sa curiosité. Consuelo savait ses particularités. Elle se les rappelait en voyant les attributs des innocentes occupations d'Albert. « Non, je n'aurais pas peur, » se disait-elle, « d'un être si doux et si pacifique. Ceci est la cellule d'un saint et non le cachot d'un fou. » Mais plus elle se rassurait sur la nature de sa maladie mentale, plus elle se sentait troublée et confuse. Elle regrettait presque de ne point trouver là un aliéné ou un moribond, et la certitude de se présenter à un homme véritable la faisait hésiter de plus en plus. Elle rêvait depuis quelques minutes, ne sachant comment s'annoncer, lorsque le son d'un admirable instrument vint frapper son oreille. C'était un Stradivarius chantant un air sublime de tristesse et de grandeur sous une main pure et savante. Jamais Consuelo n'avait entendu un violon si parfait, un virtuose si touchant et si simple. Ce chant lui était inconnu, mais à ses formes étranges et naïves, elle jugea qu'il devait être plus ancien que toute l'ancienne musique qu'elle connaissait. Elle écoutait avec ravissement, et s'expliquait maintenant pourquoi Albert l'avait si bien comprise dès la première phrase qu'il lui avait entendu chanter. C'est qu'il avait la révélation de la vraie, de la grande musique. Il pouvait n'être pas savant à tous égards. Il pouvait ne pas connaître les ressources éblouissantes de l'art. Mais il avait en lui le souffle divin, l'intelligence et l'amour du beau. Quand il eut fini, Consuelo, rassurée entièrement et animée d'une sympathie plus vive, allait se hasarder à frapper à la porte qui la séparait encore de lui, lorsque cette porte s'ouvrit lentement, et elle vit le jeune comte s'avancer, la tête penchée, les yeux baissés vers la terre, avec son violon et son archer dans ses mains pendantes. Sa pâleur était effrayante, ses cheveux et ses habits dans un désordre que Consuelo n'avait pas encore vu. Son air préoccupé, son attitude brisée et abattue, la nonchalance désespérée de ses mouvements, annonçait, sinon l'aliénation complète, du moins le désordre et l'abandon de la volonté humaine. On eût dit un de ces spectres muets et privés de mémoire, auxquels croient les peuples slaves, qui entre machinalement la nuit dans les maisons et que l'on voit agir sans suite et sans but, obéir comme par instinct aux anciennes habitudes de leur vie, sans reconnaître et sans voir leurs amis et leurs serviteurs terrifiés qui fuient ou les regardent en silence, glacés par l'étonnement et la crainte. Tel fut Consuelo en voyant le comte Albert, et en s'apercevant qu'il ne la voyait pas, bien qu'elle fût à deux pas de lui. Cinabre s'était levé, il léchait la main de son maître. Albert lui dit quelques paroles amicales en bohémien. Puis, suivant du regard les mouvements du chien qui reportait ses discrètes caresses vers Consuelo, il regarda attentivement les pieds de cette jeune fille, qui était chaussée à peu près en ce moment comme ceux de Zenko. Et sans lever la tête, il lui dit en bohémien quelques paroles qu'elle ne comprit pas, mais qui semblaient une demande et qui se terminaient par son nom. En le voyant dans cet état, Consuelo sentit disparaître sa timidité. Tout entière à la compassion, elle ne vit plus que le malade, à l'âme déchirée qui l'appelait encore sans la reconnaître. Et, posant sa main sur le bras du jeune homme avec confiance et fermeté, elle lui dit en espagnol de sa voix pure et pénétrante « Voici Consuelo ».